en 2010, Michelle Obama lance un plan de lutte contre l'obésité infantile. Si la première dame danse sur Move Your Body, l'idée de départ était avant tout de réglementer la nourriture industrielle servie dans les cantines scolaires.
Michelle Obama était sur la bonne voie au début. Et malheureusement, je crois qu'elle a dévié de sa trajectoire parce qu'elle a été mal conseillée et qu'elle a collaboré avec le secteur agroalimentaire. Ils ont réussi à diluer son puissant message pour le réduire à des spots télévisés, encourageant les gens à bouger individuellement au lieu de lancer un mouvement collectif pour changer le système alimentaire.
Les grands médias et la presse scientifique se focalisent sur l'idée qu'on mange trop, toujours trop, en blâmant les fast-foods, les boissons sucrées, etc. Or, il n'y a aucune preuve irréfutable qu'il soit responsable.
Le professeur Steve Blair est l'un des principaux chercheurs recrutés dans le réseau. Il est spécialiste de l'exercice physique.
Si les gens consomment trop de calories par rapport à leurs besoins, le problème c'est peut-être qu'ils n'en brûlent pas assez. Il faut trouver un équilibre.
Le déficit d'activité physique est devenu en quelques années, par ce genre d'opération menée par Coca-Cola, central dans la question de l'obésité, alors que ça a été construit de toutes pièces par un industriel qui avait un produit à défendre. Et en plus, dans cette vidéo, c'est un scientifique qui vous le dit. C'est un scientifique qui le dit, il est dans son laboratoire, donc forcément il doit savoir de quoi il parle. Et cette utilisation, cette instrumentalisation de la science pour affirmer des choses au public et du coup entretenir ce doute, c'est quelque chose qui marche très fort en fait. C'est une stratégie extrêmement efficace de persuasion.
L'industrie s'est focalisée sur l'histoire des calories consommées et des calories dépensées. Vous pouvez boire ce que vous voulez, il suffit de faire un jogging pour brûler les calories. Nous savons que ce n'est pas la réalité.
Notre poids serait un équilibre entre calories avalées et calories dépensées. La théorie semble logique. Le seul problème, c'est qu'elle est fausse. L'exercice physique joue en effet un rôle mineur dans le contrôle du poids. Il faudrait courir une heure pour éliminer un hamburger et 2h15 pour une pizza.
Du point de vue des calories, l'accumulation des graisses est égale aux calories consommées moins les calories dépensées. Cette formule est parfaitement correcte sur le plan de la physique. C'est vrai. Mais le problème, c'est que ça, c'est de la physique, alors qu'on parle de physiologie humaine. Et les deux n'ont absolument rien à voir.
Je pense qu'il faudrait arrêter de se focaliser sur les calories. Oui, on peut manger moins et perdre du poids pendant un certain temps, mais votre corps va se battre. Et sur le long terme, on sait que le métabolisme est plus fort que la volonté.
Mais alors, si la volonté individuelle n'est pas en cause, comment expliquer cette hausse spectaculaire de la courbe d'obésité à partir des années 80 ?
Quelle est la différence entre 1970 et 2019 ? Je ne pense pas que la biologie humaine ait changé. C'est plutôt la manière dont nous mangeons, à la fois le type de nourriture et la fréquence des repas.
En 40 ans, notre alimentation a subi une véritable révolution, issue d'une politique lancée à la fin des années 70. À l'époque, c'est l'hécatombe, due aux maladies cardiovasculaires, qu'il faut combattre. Le gras est alors désigné comme principal coupable. Une erreur qui va avoir de graves conséquences sur le régime alimentaire mondial. On recommande de réduire la consommation de graisse et on privilégie désormais les céréales comme base de notre alimentation.
Il fallait donc manger plus de pain, de riz et de pommes de terre, par exemple, qui sont pauvres en graisse, et consommer moins de produits laitiers et de viande. Pendant des années, ça a été la recommandation officielle, et je crois que c'est ce qui explique pourquoi les gens ont pris du poids.
Ce nouveau régime alimentaire sans gras profite à la même époque de la révolution agricole. Partout, en Amérique et en Europe, l'agriculture intensive, subventionnée par nos gouvernements, produit des céréales en grande quantité et à très bas coût.
Je pense que le gouvernement américain subventionne l'épidémie d'obésité de différentes façons, notamment à travers son soutien à la production de maïs et de soja, dont une partie sert à fabriquer du sirop de maïs très riche en fructose. Comme c'est un sucre très bon marché, ça favorise l'ajout de sucre dans de nombreux produits.
Le gouvernement américain a poussé l'industrie alimentaire à produire des milliers de produits transformés allégés en gras. Donc, mettez-vous à la place des industriels. Si vous devez réduire les graisses, par quoi allez-vous les remplacer? Eh bien, par des céréales transformées et du sucre.
C'est le grand tour de passe-passe de cette histoire. Le sucre pas cher remplace le gras car il rend les aliments allégés savoureux et addictifs. C'est le début de la manipulation des ingrédients. Les céréales, recomposées en pain de mie, cornflakes ou plats préparés, déferlent dans les supermarchés.
Il y a une photo intéressante où on voit une famille américaine après-guerre, dans les années 50, qui est entourée de tous les aliments qu'ils consomment dans l'année. Et on constate qu'il y a beaucoup de vrais aliments, des fruits, des légumes, du lait, etc. Et assez peu d'aliments transformés, voire ultra-transformés, à part peut-être les cornflakes. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va progressivement aller vers de plus en plus de faux aliments, des aliments artificialisés qu'on peut qualifier de fake foods et qui sont très caractéristiques de notre alimentation moderne.
Quand vous mangez, le taux de certaines hormones augmente. Et l'hormone la plus importante, c'est l'insuline.
L'insuline détermine si les calories ingérées sont brûlées ou stockées sous forme de graisse.
L'un des carburants essentiels de notre corps, ce sont les glucides, c'est-à-dire le sucre. Lorsque nous mangeons, le pancréas fabrique de l'insuline. Et c'est l'insuline qui transporte le sucre dans nos cellules. Quand on mange souvent des aliments à base de glucides et de sucre ajouté, comme dans les produits transformés justement, le niveau d'insuline reste donc toujours élevé.
Quand il y a trop d'insuline, nos cellules graisseuses, c'est-à-dire les tissus adipeux de notre corps, absorbent trop de calories et les stockent. Il n'y a alors plus assez de calories pour le fonctionnement du corps, c'est-à-dire pour les muscles, les organes et le cerveau. C'est pour ça qu'on a faim. Les aliments ultra transformés, les hamburgers, les boissons sucrées et toute la malbouffe qu'on grignote sont digérés très vite, mais n'apportent pas de satiété. Donc, ce sont les glucides ultra transformés qui provoquent la prise de poids.
Avec ces produits ultra transformés, l'industrie nous fait donc avaler une nouvelle couleuvre. On mange ce qu'on appelle désormais des calories vides.
Il faut bien comprendre que les aliments ultra transformés sont des recombinaisons d'ingrédients et d'additifs pour redonner de la couleur, du goût, de la texture. On met des arômes et donc on crée des aliments artificiels qui sont très attractifs. Et c'est cette hyper-attractivité qui est dangereuse parce que d'abord, elles nous éloignent des vrais aliments et elles nous font consommer l'aliment plus que de raison. C'est-à-dire que le plaisir de consommer ces aliments va l'emporter sur la satiété.
Pire encore, ces produits ultra-transformés perturbent notre flore intestinale, notre microbiote. Or, les bactéries intestinales assurent des fonctions essentielles. Non seulement elles nous aident à digérer, à fabriquer des vitamines, à éloigner les maladies, mais elles agissent aussi sur notre poids. Des études ont révélé que les personnes obèses ont un microbiote appauvri. La richesse est donc fondamentale. Dans les sous-sols de l'université de Stanford, Erika Sonnenburg a mesuré l'impact de notre alimentation moderne sur le microbiote. Elle a nourri plusieurs générations de souris avec un régime à base de produits ultra transformés.
Quand on leur a donné une alimentation riche en sucre simple, la perte de diversité s'est aggravée au fil des générations. Donc chaque génération avait moins de bactéries intestinales que la précédente.
À la quatrième génération, plus de la moitié des bactéries ont disparu. Un simple régime alimentaire riche en sucre a décimé le microbiote de manière irréversible.
De nombreux aliments transformés ont subi un traitement qui a éliminé les fibres alimentaires. Or, quand on enlève les fibres, on supprime ce qui nourrit les bactéries intestinales.
Si on avait voulu créer le régime alimentaire le plus ravageur qui soit pour nos microbes intestinaux, il ressemblerait sans doute beaucoup au régime occidental.
Malgré les dégâts provoqués sur notre organisme, rien n'arrête la propagation des produits ultra-transformés.
On a un mot nouveau, snacking, le grignotage. En 1990, ça n'existait pas. Il y avait des aliments vendus dans la rue, pendant les fêtes, mais on ne grignotait pas. Aujourd'hui, aux États-Unis, au Mexique, au Chili et au Brésil, un quart des calories avalées viennent du snacking.
C'est rentable de vendre des aliments gras, sucrés, salés et addictifs. Ça l'est beaucoup moins de vendre des produits sains, riches en fibres et peu transformés. Alors quel est le moteur de cette épidémie d'obésité? La course au profit.
Cette révolution alimentaire a donné naissance à des empires. Nestlé, Unilever, Coca-Cola, Kellogg's, PepsiCo. Aujourd'hui, une poignée de multinationales détient quasiment toutes les marques. Elles pèsent 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires et ont pris le contrôle de nos assiettes.
L'alimentation est un secteur majeur de notre économie. Il n'y a pas seulement les entreprises alimentaires comme Nestlé, Danone, Coca ou Pepsi. Il y a aussi les distributeurs comme les supermarchés Walmart ou Carrefour. Les firmes agroalimentaires sont puissantes et elles contrôlent la chaîne de distribution. Et puis les agences de marketing qui font de l'argent en vantant les mérites de la malbouffe aux consommateurs. Donc, on a des acteurs qui pèsent très lourd dans notre société et qui veulent nous vendre des aliments et des boissons mauvais pour la santé.
L'arme secrète des industriels de l'agroalimentaire, c'est le prix. Leurs produits sont beaucoup moins chers que les produits frais, jusqu'à 60% de moins. Ils remplissent ainsi en priorité les caddies des plus pauvres. Cibles privilégiées, ils deviennent les premières victimes du système.